Une fois que j'étais dans l'eau, alors là, ça a été compliqué parce que je me suis dit, maintenant, ça rigole plus. Il y avait des grandes herbes dans le fond et j'étais là avec ma main, j'écartais les herbes comme ça, une à une, très doucement, pour voir si je voyais pas, si je tombais pas sur la gueule du crocodile, parce que c'était ça le truc, il fallait le trouver maintenant. Et puis à un moment donné, le long de la berge, il y avait une espèce de tombant là, avec des grandes plantes qui faisaient un rideau qui tombait dessus, et j'ai juste vu les écailles de la, les dernières écailles de la queue. Des trucs énormes. Et puis alors, j'ai écarté doucement avec ma main comme ça, pour que la lumière rentre. Après, j'ai vu ses pattes qui étaient posées, j'ai vu des griffes, mais avec des ongles comme ça. J'ai dit, bon, ben, c'est lui. Et là, je me suis senti mieux. C'est-à-dire que je voyais le danger. Ce qui est affreux, c'est de ne pas voir.
Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storylifique. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Découvre des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça ? Toutes les explications sont sur storylifique.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Cousteau et sa Calypso, ce sont des noms qui reviennent tout le temps dans la bouche de mes invités. Didier Noirot fait partie de cette légende puisqu'il a travaillé 12 ans avec lui. L'occasion de parler de cette époque et du formidable parcours de Didier depuis, car il a continué à travailler avec les plus grands, comme on va le voir, récoltant de nombreuses récompenses pour son travail au passage. On parle de la spécificité de son travail, de ses plus belles rencontres avec les animaux marins, et il y en a beaucoup pour notre plus grand plaisir, de sa vision de la vie. J'ai passé un très très agréable moment à discuter avec toi Didier, merci encore. Si cela te donne envie à toi auditeur de rencontrer Didier Noirot et de lui poser tes questions, il sera au festival Into the Blue le samedi 26 novembre à Bruxelles. Allez, c'est parti pour une immersion dans les eaux du globe. Bonjour Didier Noirot.
Bonjour Anne B.
Alors je suis vraiment très très heureuse de t'interviewer parce que j'ai quand même beaucoup entendu parler de toi déjà, que ce soit par François Sarano ou René Euzet qui sont déjà passés par le micro. Chaque fois ils me disent « Ah oui, quand j'étais avec Didier, on tournait ça, etc. » Donc ben voilà, ici tu vas passer sur le festival Into the Blue, ici en fin novembre à Bruxelles avec un film Les Mystères de Terre-Neuve. Et donc ben, c'était l'occasion de t'interviewer, voilà. Alors, il est de coutume que je laisse les invités se présenter, donc je tiens à commencer à te couper l'herbe sous le pied, je ne vais pas aller plus loin, je vais te laisser faire le reste.
Alors, c'est simple, j'ai commencé la plongée en 1976, après Jésus-Christ, je te rassure tout de suite. Donc, ça va faire 47 ans. Voilà, j'ai plongé un peu partout. Je suis allé au pôle Nord, je suis allé 3 fois en Antarctique, j'ai fait 10 expéditions hivernales dans le lac Baïkal, j'ai fait des trucs sympas, plus des tropiques, des mers tempérées, et j'ai eu la chance parce que je l'ai voulu, de travailler pendant 12 ans avec le commandant Cousteau sur la Calypso, c'est là que j'ai connu François Sarano. Et puis après, je suis parti chez les Anglais, j'ai travaillé pour la BBC, j'ai fait Blue Planet, Planet Terre, Planet Earth, et puis d'autres grandes séries, Great Migration, j'ai travaillé aussi sur Frozen Planet, Blue Planet 2, etc., etc. Plus récemment pour Netflix, aussi d'autres productions pour National Geographic, enfin voilà.
Ouais, super. Et donc, tu avais 15 ans, en fait, quand tu as décidé que tu voulais rejoindre l'équipe Cousteau.
C'est
ça. Ça a marché.
Ouais, ça a marché. J'ai fait une lettre. Alors, j'ai fait une première lettre qui est tombée au panier, et puis sans suite. Hein, il y en a 1000 qui écrivent par an, hein, c'est simple. Donc, j'étais pas prêt. J'ai écrit la lettre un peu plus tard, en fait. J'avais, dès que j'étais plongeur, c'était un rêve. En fait, c'est quand je suis parti après aux Maldives. J'étais moniteur de plongée au Club Méditerranée, je m'occupais des labos photo, c'est-à-dire j'enseignais la photo sous-marine, voilà, aux clients. Et donc je développais, alors c'était des diapos, un système E6, hectachrome, de diapositives couleur. Je faisais les diaporamas, les trucs, c'était super intéressant. Et j'ai envoyé, donc c'était en 86, j'ai envoyé une lettre avec 40 duplis de diapos puis une petite cassette vidéo. La vidéo venait de sortir, la vidéo sous-marine, donc j'ai fait un film de 10 minutes. Et là, je lui ai expliqué, j'ai dit, voilà, commandant, vous avez besoin de moi. Donc, ils m'ont répondu, ils m'ont dit, venez nous voir quand vous rentrez. Donc, je suis passé à la Fondation Cousteau, ils étaient à Paris, 25 avenue de Wagram. Et j'étais dans un coin, je voyais le commandant qui discutait avec Michel Deloire, son caméraman. Et puis moi, on m'avait dit d'attendre là, et j'attendais, je me demandais. Enfin, je me doutais bien que s'il m'avait fait venir, c'était pas pour me dire, ah ben non, on te prend pas. Donc, et puis après, le commandant s'est tourné vers moi, puis il m'a dit, voilà, je vous présente, à Michel Deloire, il a dit, je vous présente Didier Noirot qui part avec vous demain. Ça a été assez vite. Alors, faut dire que quelques jours avant, quand même, il y a eu quelques échanges, notamment, parce que, comme je te dis, il y a à peu près 1000, ils avaient eu, je crois, environ 1000 demandes dans l'année, enfin, c'était énorme. Et ils sélectionnaient 10 dossiers, et sur les 10 dossiers, ils en prenaient qu'un, et donc les 10 sélectionnés allaient passer une journée avec Albert Falco à Marseille, une journée de plongée. Et cette journée de plongée, Bébert m'a emmené, et puis on a plongé dans... Il y avait quoi, 3 mètres d'eau, hein, c'était rien du tout. Et il y a un petit poulpe qui est sorti d'une grotte, d'un petit tombant. Puis il est venu, il a marché comme ça sur mon bras. Il est venu, il m'a regardé, puis il est parti tranquille sans lâcher l'ancre. Et donc, après, Falco m'a dit, ben, vous avez le sens avec les animaux, il a pas eu peur, c'est bien. Je crois que c'est grâce à ce poulpe que j'ai été pris chez Cousteau.
Génial, merci le poulpe.
Merci le poulpe, l'intelligence de la pieuvre, exactement.
Extraordinaire. Justement, François Sarano a dit que c'était un poulpe aussi qui avait un peu décidé de sa carrière. Décidément, les poulpes.
Ah, le poulpe, je mange jamais de poulpe d'ailleurs. Hein. Le poulpe, moi j'ai un très grand respect pour cet animal. Comme disait Cousteau, c'est le plus intelligent des invertébrés, et c'est vrai. Hein. Ils apprennent tout de A à Z depuis le départ. Ils sont extrêmement intelligents. Je vais pas refaire l'histoire du poulpe. Hein. On connaît tous. On a tous vu L'intelligence de la pieuvre, ce film magnifique. Donc, le poulpe, c'est ça, voilà. Donc, je dois probablement ma carrière à un petit poulpe de Marseille.
Formidable. Et pour les plus jeunes qui écoutent, l'aventure Cousteau, pourquoi est-ce que Cousteau a tant marqué les esprits? Parce qu'il a marqué une, deux, voire trois générations au fer rouge ou au fer bleu. C'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui me parlent de Cousteau qui a influencé leur carrière, Cousteau qui a, même sans faire partie de l'équipe, mais... Voilà, moi je soutiens Graines de Vie par exemple avec le podcast, et lui aussi me parle de Cousteau qui lui a donné ses envies de nature... Pour toi, c'est quoi l'héritage Cousteau? Qu'est-ce qui a fait que ça a été un tel engouement, un tel impact?
Moi, je crois que Cousteau, il est arrivé à une époque où il était seul. Personne faisait du film marin, sous-marin à l'époque. Il a été le pionnier. Il a évidemment contribué, il a développé la plongée hein, avec son détendeur, avec l'ingénieur Gagnon, Émile Gagnon. Donc, il n'avait pas de concurrence. Donc, quand il est seul sur les ondes... Et il avait compris l'importance de la télévision. Donc, il faisait des films pour la télévision. Et n'ayant pas de concurrence, tout le monde regardait les films Cousteau et ne regardait que les films Cousteau, qui étaient bien faits. Hein. C'était les films Cousteau. Il m'a toujours dit, moi, je filme une aventure humaine à travers les océans. Voilà, c'était ça le film Cousteau. Et, ouais. Et forcément, on regardait tout ça. Moi, ça a changé plusieurs fois de jours de diffusion. Ça a été le mercredi, ça a été le jeudi, il y a eu le dimanche, mais on était tout le temps cloués devant les... On ratait jamais un film Cousteau.
Je crois qu'il a eu l'intelligence aussi de montrer l'équipe. Hein.
Alors, c'est ça.
Pas mal la vie à bord, et on s'attachait aussi au personnage, à Bébert.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Il filmait une aventure humaine. Et qu'est-ce qui intéresse l'homme si ce n'est lui-même? Voilà. Donc,
Et alors, il t'a mis au film, tu faisais donc la photo au début pour lui. Et puis alors, il t'a longuement formé, n'est-ce pas, pour le film. Explique un peu comment t'es passé de la photo à la vidéo, c'est assez typique de Cousteau, je pense.
Voilà, alors j'étais photographe les deux premières années, et c'était à Tahiti, on était aux îles Gambier, et l'équipe cinéma va faire une plongée sur le récif, bon, tout à fait, une plongée lambda, rien de... Voilà, une plongée de récif normale, sans que ce soit dans un endroit extraordinaire. Bon. Et moi, je décide d'aller faire le petit reportage sur les fermes perlières, puisqu'il y avait des fermes perlières au Gambier. Et il me voit partir avec le Zodiac, avec le chauffeur, un matelot, un Tahitien, Mopiti, on l'appelait Mopiti. Et il me dit, là-bas, où allez-vous? Ben, je dis, commandant, je vais faire mes photos, je vais faire mon travail. Et il me dit, vous m'emmerdez avec vos photos. Faites du cinéma. Et là, je regarde, je lui fais, mais comment ça marche, vos caméras, il n'y a même pas de viseur. Et il me fait, comme une mitraillette. Ah bon? Et pour le diaph, je mets quoi? Il me dit, mettez 5.6 et le labo Telcipro fera le reste. Bon.
Voilà.
Donc voilà, ça, c'était mon cours de cinéma en version accélérée, Cousteau. Le vous m'emmerdez avec vos photos, faites du cinéma, rac, la mitraillette, 5-6, le labo fera le reste.
Voilà.
Voilà, ça, ça a été mon école de cinéma. Démerde-toi avec ça. Bon, très bien. Alors, j'y suis allé. J'ai fait ces bobines. Donc, Raymond, l'assistant, m'a préparé une caméra 9 mm. 9 mm, c'était l'objectif. C'était pas le film. Le film, c'était du 16. Donc, 9 mm, ça correspond à un grand angle, mais pas trop. Voilà. En gros, c'est ça. Et j'ai aussi fait mes photos parce que j'étais quand même, c'était mon travail. Et puis, 8 mois passent et arrive le mix. Le mix, c'est donc l'étape finale du film où on cale les niveaux de son sur l'image. Donc, ça se passait à Boulogne, au studio du, les studios du, je ne me rappelle plus du nom, du pont du jour ou point du jour, peu importe. Dans une salle de cinéma, on est 3 dans la salle. Et Cousteau me dit « Asseyez-vous là ». Alors, je suis à sa droite, donc je laisse évidemment, la salle était vide, hein. Donc je laisse une place, puis je me mets à côté pour pas être... Non, il me dit « Là ». Il me voulait « Là ». Genre, prêt à mettre un coup de coude.
Sous le coude, ouais.
Et donc, le film passe, alors on m'avait prévenu « Tu dis rien », et il va caler les sons, il dit trop fort, pas assez fort, le petit bruit là, trop, etc. Donc je ne dis rien, et arrive la fin du film, et Cousteau me met un coup de coude comme ça, paf, et il me dit « Maintenant, vos images les plus belles du film ». Alors là, je comprends pas, parce que filmer des paniers d'huîtres qui pendent, qui pendent comme ça, sous des pontons, sous des lignes, sous des flotteurs, les plus belles du film, je voyais pas bien. Bon. Et en effet, c'était des contre-jours. Bon, très bien, c'était très beau, hein, c'était magnifique comme ambiance, parce qu'il y avait les rayons du soleil, etc. Et surtout, il me dit, la vitesse de déplacement de la caméra, c'est ça, en montrant l'écran, et pas autre chose. Et tout était là. Ça veut dire que je me déplaçais avec la caméra à la bonne vitesse. Pas trop lentement, pas trop vite.
D'accord.
Et ça, ça lui a plu.
Le bon travelling aquatique.
Le bon travelling à la bonne vitesse et la caméra qui sait où elle va. Elle se balade pas comme ça sans savoir. Voilà. Donc.
Ouais.
Et après, bon, bah, c'est ça. Deloire est parti sur le parc océanique pour faire un film. Donc, en dehors de la Calypso, et moi, il m'a dit, vous faites l'image sous-marine. Et c'est là qu'il y a eu encore une histoire qui est drôle, qui est très drôle. Puisque mon premier film, c'était un film à Bornéo sur les mangroves. Donc, à la limite, s'ils se plantent, les mangroves, il y a peut-être 5 ou 10% d'images sous-marines. Toute la vie, elle est plutôt au-dessus, dans ces arbres, les Soneratia, dans la forêt qui tombe dans la mer. Les populations qui vivent dans les mangroves, dans les racines de palétuviers, c'est assez simple la vie. Hein. Il y a quelques petits poissons qui se baladent à marée haute, et puis après des périophthalmes, des petits poissons de vases là, et puis des crabes, voilà, c'est très succinct au niveau image sous-marine. Alors il commence déjà à me faire filmer, on était à Bornéo côté est, dans une mangrove, mais il y avait zéro visibilité, genre 5 cm. Je lui dis, mais qu'est-ce que... Démerdez-vous, faites un cône d'eau claire. Un cône d'eau claire, c'est-à-dire j'envoie de l'eau depuis là-haut. Là-haut, c'est Calypso. Expliquez-moi comment on va parquer Calypso dans 40 cm d'eau. Donc, je comprends pas bien. Et l'eau claire, on la prend où? On met de l'eau douce. Qu'est-ce qu'on fait? Et il dit, filmez à travers le cône d'eau claire. Bon. Alors... ça tombe un peu dans l'oubli, ce qui est très bien. Je cherche plutôt des îles avec des mangroves un peu au large, et j'en trouve. Et j'en trouve des mangroves d'eau claire. Le seul problème, c'est que ces mangroves-là, il faut les nettoyer, parce que les gens qui habitent là ne sont pas du tout concernés par l'écologie, surtout à l'époque, on est en 89 ou 90. Il y a donc que des sacs plastiques dans les branches d'arbres, tout au long de dans ces mangroves. Donc ce que je fais, bah, à marée basse, je viens avec tous les plongeurs et on fait la collecte des sacs plastiques. On les enlève tous sur 300 mètres. Et à marée haute, bah, on a des arbres un peu propres pour les filmer sans les sacs plastiques. Donc on fait les images, on fait des images sympas, des beaux, avec toutes sortes de caméras, très très grand angle, de la macro, de petits poissons coffres colorés dans les feuilles d'arbres, des trucs étonnants. Mais bon, voilà, petit, c'est pas du grand spectacle, encore que. Et un jour... on se dit avec Falco et François, il était là. Il y en a marre, les gars, là, on se prend une journée de off. C'est-à-dire, on cherche un peu un coin et on fait une plongée mer sympa, histoire de rappeler qu'on
est un peu de la vase.
Ouais, qu'on est des plongeurs, là. Les plongées dans moins d'un mètre d'eau dans la vase, c'est bon. Donc, Falco trouve une île, Sipadan, qui est de l'autre côté de la ligne de Wallace. La ligne de Wallace, c'est cette fameuse ligne que Wallace a mis en évidence, le scientifique, et qui séparait le Gondwana en deux avec la plaque africaine et la plaque asiatique. Donc c'est de l'eau profonde, et donc qui dit eau profonde dit eau claire, et Sipadan émerge de fond de 1500 mètres, et c'est une toute petite île, et donc on passe une journée à Sipadan, il n'y a personne, il y a un ermite, un gars qui habite dans une cabane en bois et qui est remplacé tous les mois ou tous les mois et demi par un autre gars, il mange ce qu'il a, c'est un petit garde en somme, indonésien. Et donc, on fait le tour, Palmas, Cuba, comme ça. Alors, on voit des trucs formidables, hein, des bancs de perroquets à bosse, des barracudas, le banc de carangue géant, une raie, des tortues, beaucoup de tortues. Et puis, à un moment donné, on voit plus profond l'entrée, comme s'il y avait une caverne ou une grotte. Ah, alors là, on se dit, tiens, on va aller chercher le matériel. Donc, on prend les bouteilles. Le Zodiac éclairage, on part avec les lampes, parce que l'éclairage, à l'époque, c'était un générateur qui nous balançait du 110 volts ou du 220 en bas, et on avait du 220 dans les lampes, hein. C'était l'artillerie lourde, hein. C'était le gros truc. Hein. Les lampes LED, les accuportables n'existaient pas, tout ça, hein. Il faut se placer dans le contexte. Et donc, on part, et là, on rentre dans la grotte, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un cimetière de tortues.
Ah ouais.
Donc, cimetière de tortues égale sujet de film. Et nous, dans notre contrat avec Ted Turner, qui finançait cette série, La Redécouverte du Monde, on avait 4 films à faire par an, peu importe les sujets, du moment que Cousteau soit à l'image et que ce soit du film Cousteau.
Mmh.
Bon. Alors, on discute avec Falco, et il me dit « Eh, Didier, vous avez peut-être un film à faire !» Avec son accent de Marseille. Là, je lui dis « Ouais, bah, appelez le commandant. Moi, c'était mon premier film à l'essai. J'étais un petit caméraman. » Il me dit, non, c'est vous le chef, montez au téléphone là-haut et appelez-le. Bon. Alors, je vais à la passerelle. Donc, le téléphone satellite, j'osais pas. Ça coûtait 50 francs français à l'époque, la minute. Donc, ils s'en foutaient. Hein, ils avaient, voilà. Bon. Donc j'appelle le commandant, et le commandant me dit « Alors Didier, comment ça se passe ce film sur les mangroves? Vous avancez ?» Je dis « Oui, très bien, on a trouvé, on a laissé tomber le cône d'eau claire, mais par contre on a trouvé des mangroves avec de l'eau claire, donc on fait des prises de vue fantastiques, on est content, ça avance bien. » Bon, il me dit « Super, etc. » Je dis « Par contre, on a trouvé un autre truc qui peut peut-être vous intéresser, on a pris une petite journée un peu comme ça, et je lui dis, on a trouvé une grotte, il y a un film à faire, c'est un cimetière de tortues. Et là, il me dit, bon, Eh bien, écoutez, faites. Je vous donne 8 jours. Parce qu'on doit aller après au nord, au Sarawak, faire un petit sujet dans la forêt primaire, sur les coupeurs de tête, les derniers, enfin, etc. Et je lui dis, commandant, il y a un problème, vous avez un problème, il me faut plus que ça, parce que il me faut 3 semaines. Le limon de cette grotte, au fond, est tellement fin, c'est du sable très fin qui tombe de la voûte, que même en palmant à 2 mètres au-dessus, et en faisant attention, on lève un nuage de sable et de vase extrêmement fine qui met 24 heures à se reposer. En gros, on fait 1 ou 2 prises par jour. Parce qu'après, c'est, voilà, on est dans nos traces et dans nos marques. Donc, voilà, après, on est revenu, on a mis des bouées au plafond parce que le câble, il traînait et ça levait encore de la vase et du sable. Donc, on a mis des petites bouées qui maintenaient notre câble au plafond. Donc, ça a été tout un boulot. Donc, je lui dis, j'ai besoin de plus. Il me dit, voilà, c'est pas possible. Et là, je lui dis, commandant, vous avez un deuxième problème. Je suis sur votre bateau, je vais faire ce film, je vais m'amuser avec tous vos jouets, vos zodiacs, vos scooters, votre soucoupe, votre hélicoptère, pendant que vous vous faites chier à Paris. Je lui parle comme ça. Alors là, longue pause, il... Allô, vous êtes là, commandant ? Oui, je suis là. Donc, il était surpris qu'on lui parle comme ça. J'étais tellement convaincu qu'on pouvait faire quelque chose d'assez unique là-dessus que j'ai dit, allez, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et puis, il m'a dit, bon, faites comme vous voulez. Donc, on est resté 3 semaines. Sauf que, entre-temps, je lui ai envoyé des bobines. Il y a des mouvements d'équipage, des gars qui rentrent, des mécanos, des électriciens, des matelots, il y a des remplacements de personnel. Donc, la vidéo n'existait pas. On savait pas ce qu'on avait sur les bobines de film.
Oui, c'est ça qui est incroyable.
Ouais.
Ça, c'était une époque héroïque.
Voilà, c'était. Ouais. On a commencé comme ça. Donc, le gars part avec 10 boîtes de films et il les porte à Paris pour les faire développer. Et là, au bout de quelques jours, le développement est fait, ils ont fait le transfert en vidéo, après on fait un transfert, ça s'appelle un télécinéma, et là Cousteau envoie un fax en disant « c'est super, les effets grand angle sont incroyables, ne partez pas avant que tout soit fini, c'est vraiment extraordinaire ». Donc on est resté 6 semaines du coup.
Ah, génial.
C'était super. Ah ouais. Le soir, on allait jouer aux boules, on avait nos boules de pétanque, Marseille, sur la plage. C'était, et on a fait un film qui s'appelle Le Spectre de la Tortue, qui, je pense, est un bon film, qui est sympa, et ça a été, mon premier film chez Cousteau.
Ok. Je savais même pas qu'ils avaient des cimetières de tortues, dis donc.
Alors, c'est un cimetière, en fait, c'est un cimetière par la force des choses, c'est-à-dire que, les tortues rentrent là-dedans, la nuit, pour dormir, elle trouve des endroits pour se reposer. Alors, elle rentre plus ou moins elle reste à l'entrée de la grotte. Mais il y en a qui vont à l'intérieur. Et puis, quand elles remontent, elles sont trop loin à l'intérieur. Quand elles remontent, elles trouvent plus la surface, elles trouvent le plancher. Il y a des grottes, des alvéoles, des trucs, des labyrinthes. Et elles se perdent là-dedans.
Ah mince,
c'est ça le problème. Donc c'est un cimetière par accident. Mm-hmm. Et quand nous y sommes allés, y avait 26 squelettes de tortues qui étaient posés comme ça, comme si on les avait mises là sur une étagère dans un muséum d'histoire naturelle.
Ah, c'est incroyable. Hein.
Ouais, c'était incroyable.
Mm-hmm. Right. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de l'aventure de l'homme quand tu étais chez Cousteau?
Ben, l'homme Cousteau, c'était un visionnaire. Cousteau, lui, il avait vu que les océans étaient en train de changer, pas pour le meilleur. Il voyait cette fonte des glaces, il voyait la nécessité de protéger, l'arrêt de la chasse à la baleine, il a vu tout ça. Donc ça, c'était un homme extraordinaire. Et ensuite, il laissait faire. C'est-à-dire, quand il engageait des gens, il leur donnait tous les moyens, il laissait faire. Donc ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y en a beaucoup qui gardent encore tout le contrôle. Lui, c'est, voilà, prenez, allez-y, qu'est-ce que vous avez vu, rendez-moi compte. Il passait pas 100% de son temps sur le bateau, il pouvait pas. Il venait lancer l'expédition, ensuite il repartait à Paris, il montait les films précédents, il était en recherche de financement, il avait ses actions. Ensuite, il revenait plutôt vers la fin. Qu'est-ce que vous avez vu? On le filmait en situation, il restait pas mal de temps hein, quand même. Mais il pouvait pas faire 100% du temps, c'était pas possible, il était trop pris. Donc, bon, voilà. Mais il laissait faire et c'était un visionnaire. Donc ça, c'était qualité numéro un de cet homme-là.
Qu'est-ce qu'il t'a transmis à toi ?
Alors, il m'a transmis un truc qui me coûte cher aujourd'hui. Alors, il m'a transmis le savoir du cinéma, hein. Maintenant, c'est simple, hein. Moi, quand je...
Tu filmes toujours en 5.6.
Ouais, ouais, le diaph, toujours 5.6, c'est comme une mitraillette, hein. Moi, si je tombe en panne de viseur, c'est pas un vrai problème, j'arrive à me débrouiller. Voilà. En gros, c'est ça. Mais non, ce qu'il m'a transmis, c'est que lui, alors évidemment, il s'appelait Cousteau, c'était facile. Il avait des financements, il avait Ted Turner qui le payait. Ouais, il payait pour ses films, il n'y avait pas de concurrence, il était mondialement connu, ça a été l'homme le plus connu sur la planète à un moment donné, hein. Avant le président américain peut-être, hein. Donc voilà. Et il m'a dit, Didier, si vous voulez faire un film, faites-le d'abord et vous verrez ensuite combien ça coûte. Alors, ok, donc je travaille comme ça des fois, je tourne, je fais des films, puis je vois après combien ça coûte, mais... Je te confirme, il faut s'appeler Cousteau pour bosser comme ça. C'est assez compliqué. Oui. Mais au moins, on fait des projets, on se lance dans l'aventure. Voilà, et ça, c'est important.
Et on n'a pas peur de faire du beau, parce qu'on ne regarde pas au dernier
Exactement.
Centime.
Ouais, ouais.
Alors, comme on disait, t'as tourné avec des prods qui ont des gros budgets, hein, pour le film Nature Animalier, Disney Nature, National Geographic, Netflix, bien sûr la BBC, qui est connue, très connue pour ça, hein. Et tu me disais qu'ils ont une belle longueur d'avance dans cette discipline par rapport à la France, dans ce qui est film nature.
Oui, les Anglais ont commencé le documentaire, je pense, quand ils avaient leur première colonie au Kenya, en Afrique. Quand ils ont vu cette vie-là, ils ont tout de suite filmé. Donc, ils ont commencé... dès que les caméras étaient un peu au point, je crois que c'était vers les années 1920, par là, ils ont commencé à faire des films documentaires. Donc, ils ont 30 ans d'avance sur nous. Nous, on a commencé plus tard, je me souviens, c'était La vie des animaux avec Frédéric Rossif qui passait à la télé à 7h ou 7h30 le soir. Voilà. Puis, une fois qu'ils ont mis le pied dedans, la BBC, ils ont eu des moyens énormes aussi. Voilà. Après, ils ont cette culture du documentaire, cette avance, ils ont les moyens. Donc nous, les Français, on rame un peu derrière. Encore que, il y a des très très bons documentaires. Et partout maintenant, il y a des gens qui sont brillants partout. Et chez les Allemands, les Japonais, les Autrichiens, les Espagnols, il y a des gars qui sont bons partout. Voilà.
Tu m'as raconté une anecdote en prépa qui m'a vraiment intéressée. C'est que tu disais, la BBC, ils ont l'habitude de travailler avec des petites équipes. Et ils vont jusqu'à mettre des matelas sur la glace quand ils filment sur la banquise pour...
C'est ça, c'est-à-dire que le secret, et là j'ai aussi beaucoup appris avec eux, c'est-à-dire travailler en petite équipe réduite, discrète, silencieuse. Quand Doug Allen me disait, quand il partait en Arctique filmé sur la banquise, les narvals, les belugas, etc., qui faisaient des affûts, ils étaient posés sur un matelas, de façon à ce que quand ils bougent, il n'y ait aucune vibration sur la glace, parce que les animaux peuvent les sentir. Et ils étaient évidemment cachés derrière, habillés en blanc, cachés derrière un drap blanc avec juste un trou pour le téléobjectif qui dépasse, c'était ça. Donc ça aussi, c'est une façon de travailler qui, je crois, paye. D'ailleurs, je pense aux cinéastes qui font les oiseaux, qui sont dans les affûts, c'est un petit peu cette méthode-là. Ils restent sans bouger, ils sont soit dans des tentes, soit dans des affûts à poste. Ils sont très silencieux. Et là, quand on bouge pas, les animaux reviennent. Si vous faites du bruit avec des moyens mécanisés, vous faites peur plutôt qu'autre chose, vous dérangez. Quand vous faites pas de bruit, la nature revient.
La discrétion. Tu as tourné des images commentées par David Attenborough pour The Blue Planet, qui a reçu un Emmy Award en 2002. C'est comment de travailler avec ce monsieur dont je crois qu'on peut dire qu'il est mondialement connu, hein.
Oui, comme tu dis, on peut le dire. il est plus que mondialement connu. Il est, enfin,
on
oui,
l'a vu
il
reçu
est,
par Obama,
non,
par la
non,
Reine
d'Angleterre. Non, non, c'est le...
Ouais, ouais, bon, il est... C'est
je
the
pense
sommité,
que ça sera
quoi.
Une perte énorme quand il partira, parce qu'en plus, lui aussi, il est très visionnaire, il a une expérience. Il a commencé ses films dans les années 40, je crois, aussi en Afrique. Et donc il a plus de 60 ans d'expérience dans le domaine.
Moi, je regardais encore hier, c'est vrai qu'il est, il est incroyable, enfin, on le voit avec plein d'endroits. Je avec les oiseaux de paradis qui lui laissaient pas la parole, on voit qu'il veut refaire des prises et des prises, parce qu'il était aux prises justement avec un oiseau de paradis, chaque fois qu'il essayait de parler, qu'il recommençait à faire ses brouilles et ses dents, c'était très drôle. Mais
Il a de l'humour, il est drôle.
Oui, oui, tout à
voilà.
fait.
Voilà, donc encore un homme exceptionnel.
Alors, tu l'as rencontré
non, alors,
ou
bizarrement, non, parce que moi, je suis sur le terrain et il n'est pas sur tous les terrains parce qu'il fait beaucoup de commentaires de films, de narrations. Mais non, non, c'est un homme extraordinaire. Il connaît le sujet. Il a une vision encore positive. Il délivre encore un message. Il dit « c'est pas trop tard, mais il faut agir maintenant ». Voilà, et donc c'est pas le gars qui voit tout ah c'est foutu les gars, non non, il y a des solutions mais il faut les prendre maintenant. Dans One Planet, il décrit exactement la situation de la Terre aujourd'hui et de la situation écologique. Après dans sa narration, il est drôle. Voilà, il est très drôle.
Donc tu as aussi attends, je pense que c'est Hans Zimmer qui avait été mandaté pour la musique de ce film The Blue Planet.
Blue Planet
Hans
2.
Hans Zimmer a fait la musique de voilà, c'est pas n'importe qui non plus ça hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Hans Zimmer, c'est sans doute un des créateurs de musique de films, encore des plus compositeurs, je cherchais le mot, merci. Le plus célèbre et le plus primé du monde hein, il y a eu Le Roi Lion, Dune, Gladiator, Le Dernier Samouraï, Inception, Blade Runner, Le Chevalier Noir, puis sans transition encore Kung Fu Panda, Batman, Rain Man. Voilà, je vais mettre les liens vers la liste. C'est un palmarès de fou. Qu'est-ce que tu as pensé de la musique qu'il a créée pour accompagner vos images?
Alors, c'est du Hans Zimmer. Voilà, donc c'est très bien. C'est plus que très bien. Voilà, j'ai malheureusement rien d'autre à dire.
Et ça fait quoi quand on te dit un jour, ben voilà, tu vas faire un film avec David Attenborough, c'est Hans Zimmer qui fait la musique, etc. Ça t'étonne encore? T'as quand même encore le wow? Ça fait quoi de pouvoir travailler avec ces grandes carrures, avec les meilleurs, quoi, finalement?
Ben, alors, la musique, c'est toujours après. C'est-à-dire que quand on commence une série ou quand on la tourne, on ne sait pas toujours qui est le musicien. Pour Blue Planet 1, Blue Planet, c'était George Fenton. Avec les orchestres de soit c'était Vienne, c'était souvent Sofia en Bulgarie ou c'était Londres. Donc ça, la musique, on le sait pas toujours. Par contre, la première fois, si ça marque, forcément que ça marque. Ma première contribution à la BBC, ça a été sur un film qui s'appelait Robo Shark, Swimming with a Smart Shark. Donc commenté par David Attenborough, on utilisait une maquette de requin avec une petite caméra dessus, et cette maquette allait au plus près des requins pour filmer les requins. C'était ça le concept. Il se trouvait que la maquette marchait pas toujours, donc on la poussait. C'était assez compliqué. Enfin bon, mais toujours est-il que le film est très sympa et on a pu, parce qu'on bosse aussi avec une petite équipe plongée, on est deux dans l'eau, au recycleur, on fait pas de bulles, on vient très près des animaux, donc on est vraiment dans la vie des requins, et c'est ça qui est très porteur et qui est très bien. Alors après, c'est sûr que ce film-là, il a été aussi commenté par David Attenborough, ça a été mon premier film à la BBC, c'était pour la BBC. Honnêtement, je venais d'un milieu français où j'étais chez Cousteau, donc c'était le milieu anglo-saxon, je le connaissais pas. Donc, Monsieur Attenborough, très bien. Après, c'est après que j'ai compris l'importance et la valeur de cet homme-là. Et comme c'est lui qui faisait toutes les narrations, Blue Planet, c'est lui qui a fait la narration de Blue Planet aussi, etc. Après, ça a tout de suite été une habitude de travailler avec ces gens-là sur ces productions-là. Donc, voilà. La première fois, on est impressionné, mais ça passe vite. Après, c'est comme ça, c'est le commun de tous les jours.
Mais tu es content de ce que
ces grandes personnes derrière avec tes images? C'est clair. Évidemment que je suis content. C'est pas parce que c'est comme ça que ça se passe avec les Anglais que je ne suis pas content. Bien sûr qu'on est content.
Génial. Et alors, tout ça a été récompensé. Hein. Je crois qu'il y a eu deux ou plus d'Emmy Awards, un Wild Screen, BAFTA. C'est quoi qui
un
fait la spécificité? Pardon?
Un panda. Un panda et un BAFTA, ouais. Enfin, le BAFTA pour l'équipe.
On en voit quelques-uns derrière toi, là, sur la vidéo. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ton travail? C'est quoi ta griffe?
Ma griffe, c'est de venir près des animaux. Et ma spécialité dans le cinéma, c'est le long sequence shot, le plan séquence. C'est-à-dire, je ne fais pas un film en faisant une succession de plans de 2 secondes, 3 secondes, parce que c'est bougé après ou avant, ou qu'il n'y a pas ce qu'il faut. C'est que je suis les animaux. Ça, c'est ma griffe. Alors après, les animaux, j'ai beaucoup d'expérience avec les baleines à bosse. J'ai fait 22 tournages de 3 semaines. Ça fait 66 semaines avec les baleines à bosse. 66 semaines, ça fait plus d'un an. Donc j'ai appris à les connaître un peu dans tous les terrains. Je les ai filmés à Hawaï, j'en ai filmé en Polynésie, évidemment. J'en ai filmé sur le banc d'argent, en République dominicaine, à Terre-Neuve, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est ça. Les grosses bestioles, les requins aussi. Je suis très à l'aise avec les requins. Le fameux grand requin blanc dans l'océan, tout ça, c'est des plongées sans cage, évidemment. J'ai même refusé une fois, pour la BBC, un tournage sur les requins blancs, à l'époque, c'était au début, parce qu'ils allaient filmer depuis l'intérieur d'une cage.
Ouais, d'accord. Et tiens, il y a un plan très connu, justement, c'est François Serrano, je crois, qui nage à côté du requin. C'est toi qui filmais, là ?
Alors, on était deux. Moi, j'ai fait les images animalières du requin, c'est-à-dire tous les plans du requin plutôt seul, c'est moi. J'en ai filmé de François, mais on était deux opérateurs. Et donc, David Reichert, un Américain. Et moi, je me concentrais plutôt sur l'animalier, c'est-à-dire le requin dans les bandes de poissons.
Les requins, parce que tu as des plans incroyables avec des requins marteaux. C'était les îles Malpelo. Malpelo, voilà. C'est fou, mais il y en avait combien, là?
Des centaines, mais ça, bien sûr qu'il y a des...
Qui tournaient au-dessus de toi, mais t'es tout près, là.
Oui, mais c'est toujours pareil, le requin, c'est pas un animal dangereux. On l'a créé dangereux. Certains cinéastes malveillants, si je peux dire, veulent du cinéma sensation, veulent donc la musique, hein, on la connaît tous. C'est une erreur. On fait passer le requin pour un animal dangereux, alors que je ne pense pas qu'il soit dangereux. Il y a d'ailleurs pas de cas d'attaque de requin sur des plongeurs en plongée bouteille, exploration, seul. Mm-hmm. Si, évidemment, vous faites de la chasse sous-marine et puis que vous avez à votre ceinture des poissons qui perdent leur sang, oui, il y a eu des attaques dans ces cas-là. Si vous faites du surf, vu d'en dessous, vous êtes considéré comme une tortue, les tortues étant des proies pour des grands requins. Je pense notamment aux requins-tigres. Donc là, évidemment, on prend des risques. Mais
Et c'est un mythe ou c'est vrai que quand quelqu'un est blessé, par contre, il y a un risque ou le sang humain les intéresse pas du tout?
Non, le sang, c'est du sang, donc ils peuvent être attirés. Mm-hmm. Il y a un risque, mais il est assez minime, si je peux dire.
Mm-hmm. Parce même un humain blessé.
Alors c'est ça, on aime dire qu'une goutte de sang, le requin, c'est vrai, il détecte une goutte de sang parmi un million de gouttes, hein, ça doit être ça, je crois, le rapport. Donc, mais c'est pas pour ça que, voilà. Mm-hmm. Qu'on se fait systématiquement mordre. On se fera plus facilement mordre, par exemple, en eau trouble. En eau trouble, le requin, je pense au requin Leucas, Carcharhinus Leucas, ce qu'on appelle en français le requin bulldog.
Ah, j'allais dire, c'est le bulldog, moi, que j'avais en tête.
Voilà, qui est le requin qui, je crois, fait le plus d'attaques mortelles dans le monde, sur une plage en Floride, à San Sébastien, sur des surfeurs. Je crois que c'est là qu'il y a le plus d'attaques. Et après, c'est peut-être en Afrique du Sud, et encore, ils ont mis tellement de filets anti-requins là-bas que... voilà. Donc, ce requin-là, lui, il vient dans très peu d'eau, très très peu d'eau. J'ai eu des histoires à Madagascar, notamment, hein, dans les mangroves, les enfants peuvent pas se... Il faut qu'ils fassent attention. Hein, le casse, il va venir, comme les tigres aussi, ils viennent la nuit dans 40 cm d'eau, et puis ils cherchent à manger... C'est un petit peu des scavengers, c'est-à-dire ils mangent...
Charognards,
voilà, charognards. Donc ils cherchent ça, et évidemment, ils vont être très sensibles au mouvement, à ce qui se passe, ils vont mettre un coup de dent, tac, voilà.
Ouais, avant d'avoir analysé finalement. Donc, avant de savoir ce que c'est. C'est pas parce que c'est un humain, c'est parce que c'est un truc qui bouge. Donc,
et souvent, d'ailleurs, quand il y a des surfeurs qui se font mordre, ils se font pas manger, ils se font qu'à mordre. Sauf que la morsure, elle est fatale. Et le requin, il mord. Il dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse. Et donc, il recrache. Parce que c'est pas sa nourriture. On n'est pas la nourriture d'origine des requins.
Ouais.
Donc,
ouais.
C'est comme eux, hein, si on les met sur un grand buffet, on met un requin cru tout juste mort sur une assiette, puis à côté on met des tartes aux fraises et des petits fours, on va prendre la deuxième option.
Oui, voilà. Sans doute.
Sans doute.
Alors comme tu filmes de très près, moi j'ai une question, enfin d'habitude j'ai une question de mes petites filles, mais alors ma plus grande, elle savait plus s'arrêter, elle a plein de questions pour toi, donc je te livre le paquet.
Allez.
Pourquoi as-tu voulu être si près des crocodiles et il ne te voit pas lui? Et pourquoi as-tu voulu comment as-tu fait pour être avec, pour que les animaux t'aiment et que tu sois avec eux, les requins, baleines, orques et tout ça, quoi, des dauphins.
Alors, je vois la question.
Ouais, donc on a vu plusieurs, comme tu vois, on a vu plusieurs de tes films. On a bien préparé ça sérieusement en famille.
C'est bien.
Donc, le croco, ça c'est clair qu'on va certainement en parler longuement, mais déjà, juste la question de l'approche, comment tu fais pour ne pas te faire... pour réussir à ni leur faire peur, ni te faire agresser.
Eh bien, c'est parce que je suis convaincu que nous ne sommes pas la nourriture des requins et que je ne vois pas pourquoi ils me mangeraient. En plus, mm-hmm. comme je dois être profondément incomestible, donc ça n'arrange rien. Alors, voilà, donc on n'est pas la nourriture des requins. Donc, à partir du moment où on n'est pas la nourriture des requins et qu'on vient en visiteur, et qu'on respecte leur environnement, je cours pas après, j'attends, il vient pas, bah il part, hein, voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Faut pas venir en conquérant. Vous entrez dans leur monde, vous attendez leur invitation. Donc c'est ce que je fais, à partir de ce moment-là, je me dis que je peux aller partout. Et c'est ce que j'ai fait. Et pour faire, si on veut parler du crocodile, à l'époque c'était en 2000...
Oui, cette scène avec le crocodile, c'est juste incroyable,
2008.
The Dragon's Lair. Botswana.
Voilà, donc je me suis dit, bon, maintenant, les requins, c'est bien, il faut passer à autre chose. Et j'ai dit, il n'y a pas d'image de crocodile du Nil dans son milieu naturel, allons les faire. Donc j'y suis allé. Donc je suis allé au Botswana tout seul, dans un petit, dans le panhandle, c'est-à-dire le bras principal avant que le Kavango ne s'ouvre dans le delta. Donc le Kavango, c'est une rivière qui est très étroite, avec de l'eau claire pendant la saison sèche. Par contre, sur les bords, c'est une forêt de papyrus flottante, qui peut faire plusieurs centaines, voire kilomètres de large. Et donc, vous nagez là-dessous, et c'est un ensemble de galeries. Et ces racines filtrent l'eau. L'eau est cristalline. On a peut-être 10-15 mètres de visibilité. Pour l'eau douce, c'est énorme. Et donc, on est dans une jungle sous-marine avec un décor qui est absolument extraordinaire, qui est sans pareil, avec des puits de lumière à travers les racines. Vous avez des racines qui tombent comme ça. Il y a un sable jaune qui crisse dans les mains. Mmh. C'est un très beau sable. De temps en temps, on voit des marques d'hippopotames qui sont passées là. Il faut faire attention. Il y a des toutes sortes de bêtes qui sont là. Bon, c'est un milieu un peu space, hein, quand même. Hein.
Moi, rentrer là-dedans.
C'est pas pour
avec
tout le monde,
visibilité,
je confirme.
Mais pas de loin, de, non. Ça, entre la claustrophobie et la peur de me faire attaquer, non.
Voilà. Alors, donc,
je mettrai le lien vers ce docu.
Donc, je suis parti et j'ai loué chez un petit pêcheur avec le gars parlait même pas l'anglais, il parlait que son dialecte du Botswana et moi je parlais un peu l'anglais mais on se comprenait pas. Alors je lui ai dit OK, croc, il comprenait croc. Ça se dit kwena en botswanais. Et donc quand il m'a vu plonger, je lui ai dit you wait here, I come back. You wait here, I come back. Il a probablement pas compris. Donc, j'ai fait.
Il se suicide, le mec.
Voilà, restez là. Donc, moi, je suis parti. Il y avait un crocodile qui était là, comme ça, la gueule ouverte sur la berge. Un truc énorme. Il devait faire peut-être au moins 5 mètres de long. Et puis, quand on est arrivé avec le bateau, il s'est mis à l'eau. Il a eu peur. Il était dans les herbes quelque part. Et là, je me suis mis à l'eau avec la bouteille. Il avait jamais vu de bouteille de plongée, etc. Il m'a vu partir. Donc je sais pas ce qu'il a pensé dans sa tête, s'il devait rentrer, s'il s'est dit bon de toute façon c'est foutu, le client on le reverra pas, donc autant que je fasse une journée de pêche ailleurs et que je perde pas ma journée, ou quoi. Enfin, il avait une bonne tête, donc de toute façon il m'a attendu, il était là quand je suis revenu. Et donc, moi, j'ai cherché le crocodile dans l'eau la première fois, le premier plan de crocodile. À l'époque, j'avais pas de vidéo, je tournais en Super 16 avec une caméra à réflexe dans un caisson étanche. 10 minutes de film dans la bobine. Pareil, je savais pas ce que j'avais filmé. Je reconnais que c'était angoissant, hein, ce jour-là, hein, d'autant plus que j'avais amené ma femme et ma fille. Ma fille avait 11 ans à l'époque. Et quand elle me voit aller dans l'eau avec le crocodile qui venait de disparaître, elle me fait « Papa, j'ai peur ». Je savais pas quoi lui dire, moi j'étais un peu pris de court.
Ouais. Moi aussi.
Donc je lui dis « Mais t'inquiète pas, c'est qu'un gros lézard qui se dort au soleil. »
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Voilà, j'ai sorti le premier truc qu'il fallait dire. Mais moi, par contre, une fois que j'étais dans l'eau, alors là, ça a été compliqué parce que je me suis dit « Maintenant, ça rigole plus ». Il y avait des grandes herbes dans le fond et j'étais là avec ma main, j'écartais les herbes comme ça une à une très doucement pour voir si je voyais pas, si je tombais pas sur la gueule du crocodile, parce que c'était ça le truc, il fallait le trouver maintenant.
Ouais.
J'avais pas fait tout ce voyage pour dire ah ben non j'ai peur, j'y vais pas. Donc j'ai continué et puis à un moment donné le long de la berge il y avait une espèce de tombant là avec des grandes plantes qui faisaient un rideau qui tombait dessus et j'ai juste vu les dernières écailles de la queue. Les écailles étaient des trucs énormes qui étaient là. En plus, le masque, ça grossit. Donc, j'ai vu les écailles de la queue. Et puis, alors, j'ai écarté doucement avec ma main comme ça pour que la lumière rentre. Après, j'ai vu ses pattes qui étaient posées. J'ai vu des griffes, mais avec des ongles comme ça. J'ai dit, bon, ben, c'est lui. Ça, c'est sûr, c'est lui. Il est là. Et là, je me suis senti mieux. C'est-à-dire que je voyais le danger. Ce qui est affreux, c'est de ne pas voir.
Ah oui, tous les films d'épouvante jouent là-dessus. Hein.
Est-ce qu'il va venir de derrière ? Est-ce que il est où là ? C'est ça l'angoisse. C'est tant qu'on le voit pas, on a peur. Dès qu'on le voit, on est rassuré, on sait où il est. C'est pas pour ça que ça va mieux se passer après. Mais au moins, on a éliminé 80% du problème.
Suspense.
Et après, j'ai fait évidemment les plans de la queue comme ça. J'ai poussé les algues, la griffe, etc. Et il bougeait pas. Alors, mon temps était compté, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je sais qu'ils peuvent rester dans l'eau une heure sans bouger. J'ai dit, non. L'autre, le chauffeur, il va être parti au bout d'une heure.
Oui,
donc,
c'est
faut que j'avais pas envie de rentrer à la nage. En plus, contre le courant, on était assez loin. Non, ça ne l'aurait pas fait. Donc, j'ai pris la queue, puis j'ai touché comme ça, puis j'ai secoué un peu. Et là, ça a dû l'énerver. Là, alors, il y a eu un remous. De vases, etc., de vases de sable dans les plantes. Et je me suis dit qu'il allait pas reculer, il allait sortir en marche avant. Donc, j'avais anticipé en mettant la caméra dans les plantes à l'avant. Oh là là, quand j'ai vu sa gueule qui sortait. Tranquille, hein, il a juste été dérangé. Il est sorti comme ça en nageant, là, comme ils font, là, tous ces sauriens. Et là, je me suis dit, c'est bon. Donc, je l'ai suivi. Alors, j'ai fait des super beaux plans. Et puis, il s'est posé. Et je suis venu jusqu'à faire un plan de face, et là, il était un peu dans la pénombre, mais il y avait toutes ses dents blanches qui ressortaient.
Oui, on voit très bien ce plan.
Ah, ça,
et
c'était...
ma plus grande, là, qui posait plein de questions, dit « Maman, je peux lui demander s'il est fou ?» Je dis « Non, tu trouves une autre question
non,
à lui
non,
poser. »
Non, mais c'est toujours pareil.
Mais regarde, mais il est dingue, il est juste devant, là. C'est vrai que ce plan est impressionnant, quand même. Hein.
De toute façon, c'est simple, hein. Quand on veut filmer ces animaux-là, faut pas dire « je vais aller les filmer, puis pas se mettre à l'eau ». Donc, si on dit qu'on va les filmer, faut y aller. Et quand
non.
Donc, j'y suis allé, puis j'ai dit « de toute façon, on verra bien ». Quelque part, je suis assez confiant en moi. Toujours pareil, j'ai ça dans l'idée, c'est-à-dire que je viens pas en conquérant ni en agresseur. C'est pas parce que j'ai chatouillé les écailles de la queue à l'arrière que voilà. Après, je me suis dit, on verra ce qui va se passer. Hein.
Non, c'est admirable.
Peut-être pas assez réfléchi, peut-être inconscient, mais encore une fois, si on veut faire ces images-là, faut y aller. Donc, on se pose plus la question quand on est parti, on y va.
Ouais, c'est dingue, parce qu'on le voit vraiment, tu remontes tout le dos, et puis on voit effectivement, tu vas jusqu'à la tête, et puis si on a le plan de face, on dit, oula ouais, quand même.
Plusieurs
t'as
fois.
T'as pas filmé de dos pour se sauver, quoi.
Et puis une fois, c'était pire que ça. Une fois, j'en avais vu un qui était sur une berge. on lui a pas fait peur avec le bateau, donc on s'est dit, je me suis dit, parce que je sais pas ce qu'il a pensé, mon chauffeur, je me suis dit, de toute façon, on va revenir et on va aller en face, laisser dériver le bateau pour pas lui faire peur. J'avais repéré où c'était et j'ai dit, je vais me mettre à l'eau 15-20 mètres avant, le bateau m'attendra là et moi je vais finir à la palme. Donc j'ai fait ça et j'ai reconnu l'endroit, la petite coulée de sable que je pensais être la prolongation de la petite plage où était le crocodile. Et j'ai attendu là. Et le crocodile, il s'est mis à l'eau. J'ai ce plan magnifique du crocodile qui nage tranquille. Comme ça, en surface, il nage au-dessus de moi. Il me passe derrière. Et puis, à un moment donné, la caméra, je fais une sortie de champ. Je panote vers le bas. Donc, la caméra, je fais un petit mouvement vers le bas. Qu'est-ce que je vois? Un autre crocodile qui a été posé sur le sable. Un truc, il lui manquait une dent. Je me souviens toujours. Je dis, merde, il y en a un deuxième. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'y vais, ça se complique, parce qu'il y en a un derrière moi, il y en a un là, je suis tout seul dans l'eau. Et puis là, on réfléchit, on se dit, bon, le plan. Faut faire le plan, on verra, on gérera la suite plus tard. Donc, je fais le plan, et ce crocodile-là, il me regarde et il vient face à moi comme ça à la gueule. Hein. Elle est tellement près de la caméra que je crois que je suis en deçà de la limite de mise au point. Le bout de la gueule est un petit peu flou parce que trop près. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? On réfléchit vite, hein. Si je recule, je montre que j'ai peur et là, je deviens la proie et je suis mort. Donc, je ne recule pas. Et ça, ça, c'est dur. Ne pas reculer. Donc, j'ai pas reculé. J'ai montré que j'étais là. J'ai dit non, c'est moi le patron. Pour l'instant, c'est moi le patron. Je ne recule pas. Et donc, il y a eu ce face-à-face qui a été interminable, même s'il a duré peut-être 10 secondes. Tout est filmé, hein, c'est dans le film, donc je vais pas mentir. Et après, il est parti, il a fait demi-tour.
Ouais.
Pas tous les jours.
Non, pas tous les jours. Mais t'avais aussi un coplongeur très philosophe, par rapport à ça, à la conclusion là, de votre documentaire.
Alors, c'était la troisième année, parce que j'y suis allé deux fois tout seul pour monter le projet. Et la troisième année, quand on a eu le contrat, j'ai pris Roger Orox, qui était mon assistant en Afrique du Sud, que j'ai formé, j'ai pas peur de le dire, et qui aujourd'hui vole depuis longtemps de ses propres ailes, l'intelligence de la pieuvre, et c'est lui qui a filmé ces plans-là. Et fin 2009, je lui avais dit, Roger, sharks is good, but do you want to try something else? Et là, il m'a dit yes, et je lui dis Okavango crocodiles.
Et à la fin, je traduis, hein, mais il disait quelque chose de très beau, je trouve. Il dit, je pense qu'en tant qu'être humain, c'est l'un des plus grands voyages et défis de la vie d'apprendre à s'éloigner davantage d'un monde où on a peur pour être dans un monde dans lequel on aime, dans lequel on s'engage et dans lequel on apprécie profondément ce qui nous entoure. Après, il y a une autre voix, je ne sais pas qui c'est, qui dit, dans ce genre d'expérience où vous vous ouvrez à la rencontre, bien sûr, il y a le risque, mais également le potentiel de la plus grande transformation et de la plus grande joie. Et c'est pour ça qu'on le fait.
C'est ça.
T'es d'accord avec ça?
Complètement. C'est ça. Et encore une fois, on a perdu ce rapport avec la nature. Et c'est dommage. L'être humain a perdu ce rapport avec la nature. Et quand on rentre dans la nature sans agression, là, on est loin du compte, hein. L'être humain en général. Il n'y a pas de raison. Les baleines, par exemple. Les baleines. Voilà. Les baleines, qu'est-ce qu'elles savent de nous? La baleine, c'est un animal qui vit longtemps. Une baleine à bosse, c'est 70 ans. Une baleine bleue, peut-être un peu plus. La baleine boréale, 250 ans. Il y en a qui ont connu la Révolution française, quelque part. Donc, qu'est-ce qu'elles se rappellent des êtres humains? Leur harpon. C'est tout. Comment voulez-vous que un animal qui n'a connu de l'homme que ses harpons ait envie d'aller voir un homme, un être humain, un plongeur dans l'eau? C'est pas possible. C'est pour ça que, là, je sais pas si je m'écarte un petit peu du sujet, je crois pas.
Non, pas du tout.
C'est-à-dire qu'il faut encourager ces rencontres. Il faut aller plonger avec les baleines, il faut pas interdire. Faut pas dire, non, vous pouvez pas approcher à moins de 100 mètres, vous pouvez pas vous mettre à l'eau, c'est absolument interdit, il faut des permis, faut arrêter ça. Il faut recréer ce lien. Alors évidemment, il faut bien le faire. Et malheureusement, vous avez beaucoup d'entreprises de whale watching qui, les gens payent pour voir des baleines, ils veulent du résultat, on fonce sur l'animal, on voit une queue à 10 mètres, la queue plonge, ah, c'était super, ils ont fait leur photo. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, évidemment, ça marche pas. Par contre, si, moteur éteint, coupez tout, zéro bruit, zéro silence total, vous avez, pas toutes, mais vous avez des baleines qui vont venir, elles sont curieuses, qui vont venir, mais à toucher la coque. Alors évidemment, c'est pas à chaque fois. Mais quand ça arrive, ça paye, je veux dire, ça paye entre guillemets, c'est les plus belles rencontres. Ouais. Moi, je sais que je travaille toujours comme ça, c'est-à-dire, je vais jamais pour 8 jours ou 15 jours sur un tournage, c'est toujours plus. En plus, tous ceux que je fais pour moi, donc là, c'est encore autre chose. Je me donne du temps. Et si c'est pas bon, ben j'y vais pas, j'arrête, je me mets pas à l'eau souvent, je préfère que l'animal vienne. Moi j'ai des rencontres avec des baleines à bosse ouais, je vais pas dire à toucher, mais c'est ça.
Ouais, c'est formidable, hein. C'est formidable. C'est, vous avez, ouais, quand vous, les plongeurs, vous, François Sarano, René, toi, c'est ces histoires, moi, ça me fait des frissons partout. Tu te dis, t'imagines un animal aussi énorme qui vient avec tellement de bonne volonté, de curiosité, simplement. C'est super.
C'est
quoi.
Ça.
Mais tu dis que toi-même, tu as dû déconstruire dans ta tête. Tu avais lu Moby Dick et quand le commandant Cousteau t'a dit « Ouais, ouais, sperm whale, baleine à bosse, pardon, cachalot, on y va, tu te mets à l'eau », tu avais dit « Non, non, non
». Ouais, c'était la... J'avais lu, quand j'étais petit, on allait à la bibliothèque municipale et il y avait un livre qui était là. C'était une version illustrée de Moby Dick. Et donc, sur la couverture, il y avait Moby Dick, la baleine blanche, avec deux, trois harpons... planté dans le corps, la tête sortait jusqu'au niveau des pectorales, et dans sa gueule, elle avait une chaloupe, une baleinière avec un gars qui était pris en travers des dents. Donc ça a été mon image de gamin du cachalot. Donc forcément, image dangereux, animal dangereux, négatif, à fuir et à proscrire. Et en fait, le cachalot, il n'y a pas plus, comme tous les mammifères marins, il n'y a pas plus docile que ça, quoi.
Oui, c'est
des animaux qui socialisent énormément et encore une fois, ils ont eux aussi été tellement chassés qu'ils n'ont pas. On est en train, en ce moment, peut-être les cinéastes, les plongeurs plus que les autres, de changer l'image que ces animaux-là ont de l'être humain. Donc, il ne faut pas arrêter et interdire ça.
Ouais. En gardant la distance juste, je trouvais ça intéressant aussi comme concept.
La distance juste, c'est la distance, voilà, exactement. Il n'y a pas de règle. Un jour, un animal, on va l'approcher près. Le lendemain, le même animal ou un autre, on ne l'approchera pas près. C'est lui qui vient. La distance juste, c'est pas nous qui la déterminons, c'est l'animal. Là où il a envie de venir, il vient. Et on ne bouge pas, on reste là. C'est ça qui
fait. Et dans tout contact, garder conscience que ça reste un animal sauvage, rester très très calme. C'est vrai que je ne sais plus qui m'avait dit que, je ne sais plus si c'était avec la pieuvre, l'histoire de quelqu'un qui était ami avec une pieuvre qui un jour a arraché le détendeur sans le faire exprès. Et du coup, il y a un mouvement de panique et ça a failli mal tourner. Donc, il faut aussi toujours garder son cool en toutes circonstances parce que l'animal, sinon, ne comprend pas, très sensible au stress et à la panique. Et c'est là qu'il peut y avoir des accidents finalement, pas des attaques, mais des accidents.
Alors. Une situation comme ça peut être tout simplement un jeu. Ces animaux-là, comme la pieuvre ou comme le calmar, le cambar de Humblot, je pense à celui-là, en mer Cortez, sont des animaux, mais la pieuvre, plutôt la pieuvre, parce que la pieuvre, elle est intelligente que le calmar, je pense qu'il l'est beaucoup moins. La pieuvre, ces animaux-là ne se rendent pas compte de leur force.
Mmh.
Donc, ce qui peut être un jeu pour eux, peut être interprété à tort pour une agression par nous-mêmes. Donc c'est là qu'il faut pas tout confondre.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Donc il y a cette histoire d'orques là en Méditerranée, les orques qui attaquent. Alors encore une fois, on va dire des orques attaquent les voiliers. On entend ça depuis 2 ans, 3 ans. Il y a des voiliers, quand ils vont au large du Portugal, au large de Gibraltar, ils se font attaquer par des orques. Les orques leur mangent le safran. T'as entendu parler de cette histoire ?
Paf, c'est là que je coupe et te propose un gros suspense. Pourquoi ces attaques d'orques ? Est-ce que c'est vraiment des attaques ? Et qu'est-ce qui cause ces comportements ? Suite au prochain épisode, comme on dit, tu vas pas être déçu. C'est toujours le grand dilemme quand on est en pleine conversation. Est-ce que je fais un seul épisode plus long ou 2 épisodes ? Les interviews fleuves pour une fan de temps long comme moi, évidemment, ça me parle. Et en plus, quand on a la chance d'avoir au micro quelqu'un qui a un parcours aussi exceptionnel que celui de Didier Noirot, ce serait vraiment idiot de bouder son plaisir. Mais toi, une interview longue, tu préfères la déguster en une seule partie ou en deux ? Envoie-moi un petit message sur les réseaux sociaux pour me le dire. Je suis curieuse de connaître ton avis. Pour la partie 2, je ne te ferai pas attendre trop longtemps. La semaine prochaine, tu auras le fin mot de l'histoire sur ces orques mangeuses de safran. Alors abonne-toi pour ne pas louper la suite. On va parler aussi d'une formidable histoire avec un petit beluga, une autre aventure avec les baleines qui est juste magique. Ça parlera aussi de cachalots, d'orques, de manchots empereurs, d'Antarctique. Ça parle d'une vie d'aventure. Et il y a aussi la question d'Amandine. Et puis Didier, qui imite le morse, ça, c'est pas rien. Bref, il y a de quoi continuer à nous envoyer du bleu plein les oreilles. Alors, à bientôt !